Roi céleste, consolateur,
Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens.
Tous, et nous revoilà un peu pour notre rendez-vous trisannuel, je vais dire, de la journée d'entrée dans le carême, que ce soit le carême de l'Avent ou le carême ici de Pâques. Et donc après le cycle du Notre Père qui nous a nourris pendant à peu près 2 ans, dans ces entrées dans le carême, nous allons aujourd'hui nous attarder sur 2 piliers du carême qui sont le jeûne et la prière. Alors, ce n'est pas moi qui vais m'étendre sur la prière, ce sera le sens de l'exposé de Myriam, et je vais plus me concentrer sur le sens du jeûne, peut-être, qui est vu à l'heure actuelle parfois comme une contrainte ou comme une pratique d'un autre temps, comme quelque chose de dépassé, ou alors j'ai vu aussi d'un autre côté comme un moyen de détoxifier son corps, ou bien de se faire entendre en protestant, en faisant une grève de la faim, en faisant un jeûne total. Donc ça peut être aussi un moyen de pression. Mais pour nous chrétiens, et je pense que pour tout homme finalement, c'est une occasion unique, le jeûne, d'apprendre à se connaître, à découvrir où est notre véritable désir, et à se libérer un peu, je vais dire, de la tyrannie, bien que c'est peut-être un grand mot, de la chair. La chair étant considérée comme un corps pensant, pas uniquement notre corps physique, et ainsi expérimenter en nous peut-être un peu plus la vie du Christ. Alors on peut dire que l'homme, c'est un être qui a toujours faim. Et c'est vrai que, regardez, on mange souvent parfois plus que de raison, et malgré tout, quelques heures après, la faim nous tiraille à nouveau. On peut dire que l'homme est ainsi un éternel insatisfait. Il sent au fond de lui qu'il y a un vide et qu'il faut qu'il essaye de le combler. Et pour le combler, il va essayer de se procurer une jouissance et une satisfaction rapide. Et l'acte de manger est un des exemples types de ce comportement. Et notre monde moderne, quand on regarde par les fast-food ou les plats préparés, somme tout ce que l'industrie agroalimentaire nous propose, eh bien tout ça va amplifier ce comportement de se précipiter, vous pouvez dire, pour manger, pour satisfaire rapidement notre faim. En somme, tout est fait pour que notre acte de manger devienne le moins contraignant possible et nous apporte le plus rapidement possible satisfaction et jouissance. Manger devient ainsi un acte banal, comme respirer. Un acte où on ne se pose plus la question, mais au fait, pourquoi est-ce que je mange? Comment est-ce que je mange? Alors regardez la publicité, que ce soit dans les journaux, soit sur Internet, à la télévision, ou même sur les panneaux publicitaires dans les rues, le message qui nous est donné, eh bien, c'est manger, consommer, ne vous privez pas, et surtout ne vous sentez pas coupable d'être gourmand. Consommez. Et si vous vous sentez un peu lourd, de toute façon, un peu chargé, ne vous inquiétez pas, il existe des pilules, des petites potions, qui vont faire diminuer votre taux de sucre, qui vont vous aider à digérer, qui vont vous faire maigrir, qui vont réduire votre cholestérol, enfin tous les désordres que bien souvent le fait de manger inconsciemment nous apporte. Et il faut dire que la grande copine de l'industrie agroalimentaire, qui est l'industrie pharmaceutique, est là aussi pour nous aider à poursuivre dans cette voie, dans cette attitude de consumérisme effréné. Et tout ce que je viens de vous dire ici sur la consommation des nourritures physiques ou liquides pour notre cœur, eh bien, vous pouvez très bien le transposer pour les nourritures, pour notre âme, pour notre intellect, pour notre affectif. Les fast-food, prenez Internet, vous avez un bel exemple du fast-food. Tapez une requête et hop, on vous donne tout de suite pour vous satisfaire, pour répondre à vos questions. Prenez la télévision et vous avez les exemples des plats préparés, où il suffit de vous asseoir dans un fauteuil et vous allez être nourri, parfois de navets, parfois de choses qui ne sont pas bonnes, même très souvent. C'est souvent comme les plats préparés que vous pouvez acheter une pizza à 1,50€, je vais dire, dans Lidl, Aldi ou GG ou quoi que ce soit. Mais à côté de ça, il y a quand même un message d'espoir, il y a quand même une attitude d'espérance qui jaillit. Et on voit que ce message de consommation à outrance, finalement, arrive à bout de souffle. Et des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour un retour à un mode de vie plus conscient, à un mode de vie plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de notre être, corps, âme et esprit. Puis dire, comme disait Pierre Rabhi, à une sobriété heureuse. Alors, pourquoi est-ce que l'homme en est venu à un tel comportement, tant pour son corps que pour son âme? Comment en est-on arrivé à une telle situation? Bien, je crois que l'homme a fait une chose, il a oublié. Et il a oublié quoi? Il a d'abord oublié son origine. Dieu, c'est vrai, a créé l'homme comme un être qui a faim. Mais dans sa bonté, pour satisfaire la faim de l'homme, Dieu lui a aussi donné toute la création. Et il l'a placé comme co-responsable de toute la création en l'invitant à en prendre soin de cette création pour la partager avec lui, pour l'embellir. Et toute la création est là pour rappeler à l'homme qu'elle est un don de Dieu, que chaque pierre, chaque grain d'herbe, chaque fourmi est là pour lui rappeler la présence de Dieu, et que c'est à une vie amoureuse que l'homme est convié, un banquet nuptial. La création est là pour aiguiser l'appétit de l'homme pour Dieu, pour qu'il soit dans l'émerveillement. L'homme reçoit à chaque instant la vie des mains de Dieu pour la partager en communion, et c'est là le mot important, en communion avec lui, pour faire de la vie une vie avec un grand V en Dieu. Communier avec la création, c'est pour rentrer justement en relation avec Dieu. Mais lorsque l'homme veut connaître la vie en se passant de Dieu, lorsqu'il ne voit plus le don qui lui est fait comme un appel à une rencontre, à une relation, et que la création ne devient finalement plus pour lui qu'un moyen que de satisfaire sa faim, que ce soit sa faim physique ou sa faim de l'âme, sa faim de l'intellect, que le fruit en somme qu'il reçoit n'est plus un lieu de rencontre, alors la nourriture devient une nourriture morte, absente de Dieu et donc sans vie. Car vous le savez, Dieu est la vie avec un grand V de la vie. Et le Christ lui-même va le rappeler lorsqu'il dit « Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. » Et lorsqu'il dira à Thomas « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc là est notre premier oubli, quand nous n'avons plus faim de Dieu, et que l'acte de manger et la nourriture deviennent une faim en soi, et ne portent à ce moment-là plus la vie. Nous consommons une nourriture morte. La satisfaction de notre faim, ainsi au lieu d'être un lieu de rencontre avec Dieu, devient un lieu de mort. Et le deuxième oubli, c'est l'incarnation du Christ et sa résurrection. Donc non seulement nous oublions notre origine, mais nous oublions aussi, nous continuons à vivre sans voir la vie nouvelle que le Christ nous a révélée et communiquée par sa mort et sa résurrection. Nous vivons en somme comme si le Christ n'était jamais venu. Car malgré que nous avons tourné le dos à Dieu, à notre Créateur, Dieu, par amour, est revenu. Il est revenu vers l'homme. Et il est venu vivre l'expérience humaine à ses côtés. Et il va d'abord revivre, pour commencer, c'est l'expérience de la tentation du premier homme. Et il va pousser sa fin même jusqu'à un niveau extrême, puisque pendant 40 jours et 40 nuits, il va jeûner. Et Satan va essayer, avec le Christ, il va essayer la même ruse, en l'invitant à manger, à assouvir sa faim. Et à ce moment-là, comme l'homme le fit, à se jeter sur la nourriture. Et à noter d'ailleurs que ces pierres qui sont changées en pain dans la parabole, enfin dans le récit des évangélistes, symbolisent justement une nourriture sans vie, une illusion qui pourrait être faite par un magicien. Et là, le Christ va redonner justement clairement l'intention du Créateur à l'origine. L'homme n'a pas faim de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans la relation avec Dieu que l'homme trouvera le sens et la nourriture de sa vie. Le pain seul ne nourrit personne. Il n'est que le médium d'une autre présence amoureuse. Et le Christ le redira aussi avant sa passion, « Je suis le pain de vie ». C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie au monde, pour la vie du monde. C'est à nouveau donc, comme il l'avait fait lors de la création, un don d'amour inconditionnel qu'il nous a donné là-bas. Et c'est ces deux dons d'amour, finalement, que nous oublions et que tous les jours aussi nous répétons. Et pourtant, c'est ce que nous clamons à la résurrection, ce pain de vie et ce don de Dieu. Par sa mort, il a donné, par sa mort qui est le don de sa vie, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Et les tombeaux, ce ne sont pas, bien sûr, ces édifices de pierre, ces monuments de pierre ou ces cercueils, mais ce sont nos vies terrestres, coupé de Dieu. Voilà ce que nous sommes invités à ne pas oublier. Mais lorsque nous persistons dans l'oubli justement de notre origine, du rappel donné par le Christ, alors notre vie devient insensée, désorientée, mesquine, étroite. Et c'est le cas de le dire, ça devient une vie mortelle. Le démon va sans cesse essayer de nous maintenir dans cet oubli. Et il va utiliser toute son énergie et toutes ses ruses à nous tenir écartés de ces endroits de nous-mêmes où une graine de vie a été déposée. Si Dieu nous a créés finalement à son image, ce n'est que par un travail de rencontre, d'écoute, d'échange avec lui que nous allons évoluer vers sa ressemblance et ainsi participer à sa vie divine. Sinon, je vous l'ai déjà dit, la loi de l'entropie, qui est une loi universelle, elle va faire son œuvre. Et c'est vers le chaos, le néant, que se fera notre évolution. Seule une information supérieure permet à l'homme d'élever son potentiel de transformation. Selon saint Irénée, d'ailleurs, si l'homme a été créé à l'image de Dieu, dit-il, il l'a été comme un petit enfant. De manière non encore accomplie, non encore parfaite. Et la recherche de cette perfection, nous sommes appelés à la réaliser avec Dieu, précisément par l'évolution vers sa ressemblance. Si Dieu a mis en l'homme la sensation de faim, ce désir incessant de nous nourrir, c'est pour nous rappeler constamment, justement, l'évolution, le travail auquel nous sommes appelés. Bien sûr, comme nous l'avons oublié, nous nous précipitons sur les nourritures pour combler cette sensation de faim qui est toujours là. Et on néglige de travailler à cette évolution vers la ressemblance. Le père Alexandre Schmemann, d'ailleurs, écrivait « La faim est cet état dans lequel nous nous apercevons que nous dépendons d'autre chose, quand nous ressentons le besoin urgent et nécessaire de nourriture, cela nous montre que nous n'avons aucune vie en nous-mêmes. La faim, cette faim, c'est en somme un chèque cadeau. Un chèque cadeau que Dieu nous procure constamment. Mais nous sommes libres d'utiliser ce chèque cadeau à notre guise. Et souvenez-vous, Dieu l'a dit à Moïse déjà dans l'Ancien Testament, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. » En somme, lorsque notre estomac devient notre Dieu, il ne faut pas nous étonner des conséquences. Et à ce propos, je relisais dernièrement les trois messes d'Alphonse Daudet et le péché de Don Balaguer, qui illustre bien finalement un peu ce péché de l'homme. Don Balaguer, si vous vous souvenez, il néglige en somme les trois messes, il va de plus en plus vite en mangeant tous ses mots pour que ce soit terminé. En somme, son esprit à ce moment-là est tout entier tourné vers les nourritures terrestres. Son Dieu est devenu les deux dindes truffées que Garrigou Leclerc lui avait. Leclerc, qui représentait finalement le Satan, lui avait distillé gentiment pour détourner son esprit. Et qu'est-ce qui arriva? Le soir même aussi, il en mourut. Bon, ce n'est qu'une histoire, mais il est vrai aussi qu'il y a un proverbe qui nous dit que nous creusons notre tombe avec nos dents. Quoi de plus vrai? Et je pense que nous pouvons prendre conscience que l'acte de manger, quelle que soit la forme que nous adoptons, ça va nous apporter une certaine forme de vie, c'est vrai, mais pas la vie avec un grand V. Notre drame, je crois, est le drame de l'humanité, et tous les pères de l'Église et les théologiens le disent, vient que notre mental a pris le pouvoir en nous, et il cherche à nous autodéifier. Nous voulons être Dieu sans Dieu, nous voulons atteindre l'éternité par nos propres forces, uniquement. Alors à nouveau, regardez aujourd'hui l'objectif des recherches actuelles menées par Google et une grande partie d'ailleurs du monde scientifique pour prolonger la vie des centaines d'années. Et j'avais trouvé justement dans un livre, je vous incite si ça vous dit à le lire un jour, c'est « Les maladies des nouveaux médias » de Jean-Claude Larcher. C'est très instructif. Et il disait... 74, en parlant de Google, justement. Avec mes lunettes, parce qu'autrement... Non, ça va, je sais lire. Il disait que finalement, on peut parler d'une dimension religieuse dans Google, et même de l'église de Google. Et il y a d'ailleurs une église qui a été fondée au Canada, l'église de Google qui a été fondée au Canada, et qui dit qu'il considère finalement que Google, c'est un dieu. Et il le vénère en lui reconnaissant les attributs divins suivants. Google est omniscient. Il sait tout. Posez une question et il va vous répondre. Il a toujours une réponse à vous donner. Il est omniprésent. Dans quel coin de la terre où vous vous trouvez, vous allez rencontrer Google. Google répond à toutes les prières. Donc c'est-à-dire à toutes les questions que vous mettez dans la barre de Google. Google est potentiellement immortel. En effet, cette société ne se voit pas disparaître et elle fait tout justement pour essayer de durer le plus longtemps. Google est infini. Google se souvient de tout le monde. Google sait très bien partout où vous êtes à tout moment une fois que vous vous connectez. Il se souvient de vous. Et bien souvent, même quelquefois, il personnalise quand vous faites une requête, il vous dit bonjour Bernard ou bonjour Fabienne. Il sait bien qui vous êtes. Google se veut et ne veut pas faire de mal. Et Google est plus recherché et aimé que les autres dieux. Google est le seul dieu dont l'existence est prouvée. Voilà où on va maintenant, quelquefois, dans la façon de voir les choses. Et donc, l'objectif justement aujourd'hui de sociétés telles que Google, je vous disais, et des recherches actuelles d'une grande partie du monde scientifique fait aussi, c'est d'essayer de prolonger la vie justement pour des centaines d'années, en manipulant nos cellules, en mettant des enhanced, donc des améliorés, des cellules ou des moyens techniques améliorés qui permettent de prolonger votre vie. En somme, c'est toujours l'oubli de Dieu. Je veux être Dieu moi-même. Et ainsi, alors que nous croyons être finalement plus libres avec ce genre d'histoire, avec Google qui nous permet d'aller partout, avec, il n'y a pas Google, il y a Facebook ou tout ce que vous voulez, tous les nouveaux moyens, tous les nouveaux multimédias, ben nous sommes devenus les esclaves du monde, finalement. Non seulement les esclaves parfois de la nourriture, mais aussi les esclaves de la matière et de la technique. Et ce qui nous apparaît en premier, lorsque l'on parle de faim, justement, c'est de la nourriture pour notre estomac, mais notre faim, elle prend aujourd'hui, justement, d'autres formes. C'est aussi la faim de reconnaissance, la faim de gloire. Combien est-ce qu'on a d'amis, finalement, sur Facebook? La faim de pouvoir, la faim de connaissance, la faim de possession, la faim de recevoir l'amour des autres, tout ce qui nourrit l'affectivité et l'intellect de l'homme. Et chacun de nous peut trouver de quoi il a faim. Mais si nous croyons, j'espère que vous croyez, que vous êtes un être corps, âme, esprit, l'homme a besoin de nourriture aussi pour son esprit. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et si son esprit est nourri correctement, cela aura des conséquences positives sur notre âme et sur notre corps. Alors, quelle est la réponse qui est proposée finalement à l'homme et peut-être pendant ce temps de carême? Comment sortir finalement de ce chemin mortifère? Comment retrouver le sens, le but de la vie? Comment renouer le contact avec le Seigneur? Eh bien, c'est le jeûne qui est l'outil nécessaire, mais bien sûr qui n'est pas un outil suffisant. La prière est le complément indispensable. Sans cela, le jeûne ne va rester qu'un acte égotique ou un acte social. Le jeûne physique seulement, ça risque de n'être pas utile. Si la prière n'est pas là pour agir comme catalyseur, pour transformer ce jeûne en une formidable source d'énergie, alors je ne donne pas long feu de votre jeûne. Et le Christ le disait d'ailleurs, certains démons ne s'en vont que par la prière et le jeûne, montrant ainsi qu'il faut les deux piliers lorsque l'on s'engage dans le jeûne. Dans toutes les grandes traditions spirituelles d'ailleurs, le jeûne occupe une place centrale, une place importante. Et que ce soit aussi bien dans le judaïsme, dans l'islam aussi, avec le ramadan comme ils font, que ce soit dans le catholicisme, dans l'orthodoxie, dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, pour chacun, le jeûne est une voie pour se découvrir et découvrir l'amour du tout autre pour nous. Et quel que soit le nom que l'on va mettre après derrière ce mot tout autre. Et alors on peut se la poser, si c'est pour les autres religions, je vais dire, ou les autres grandes traditions spirituelles, pour nous chrétiens, finalement, qu'est-ce que le jeûne? Eh bien, c'est faire l'expérience du Christ pour ressentir la libération de notre dépendance envers les nourritures, la matière et les propositions du monde. Et le père Schneemann, à nouveau, disait, jeûner ne signifie qu'une chose, avoir faim jusqu'à la limite de la condition humaine qui dépend entièrement de la nourriture. Et là, et enfin, découvrir que cette dépendance n'est pas toute la vérité au sujet de l'homme, que la faim elle-même est avant tout un état spirituel et que finalement elle est en réalité la faim de Dieu. Le jeûne a pour fonction finalement de nous faire prendre conscience plus en profondeur de notre dimension spirituelle qui nous habite, qui est présente, qui est là, et de revenir à Dieu et de dominer notre tendance humaine, naturelle, à nous centrer sur nous-mêmes. Le jeûne signifie un changement radical de notre relation avec Dieu et avec le monde. C'est une inversion de la vision du cosmos. Au lieu de voir le monde comme une chose à posséder, à consommer, à exploiter, le jeûne nous introduit dans une vision contemplative du monde, une vision d'émerveillement, comme celle d'ailleurs pour laquelle nous avons été créés. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et les pères nous disent que c'est un exercice, que cet exercice finalement du jeûne, cette expérience est un combat spirituel. Et comme dit poétiquement, je trouve, Olivier Clément, l'ascèse est donc éveil. Hors du somnambulisme quotidien, elle permet au Verbe de dégager, de désensabler au fond de l'âme la source des eaux vives, de faire resplendir en l'homme l'image ternie de Dieu. Et le symbole par excellence de l'ascèse, eh bien oui, c'est le jeûne. Alors on peut définir aussi que le jeûne, ça se conçoit que comme un remède. Remède à la coupure, justement, de notre relation avec Dieu. Si le Christ était présent dans notre vie, ou plutôt, si nous étions présents à chaque instant dans l'intimité de Dieu, le jeûne serait inutile. Et vous vous souvenez de ce passage de l'Évangile en réponse aux pharisiens qui disaient « Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent. » Jésus avait répondu « Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux ?» Mais viendront des jours, et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Le jeûne ainsi n'a de sens que pour celui qui sait ce qu'est la véritable nourriture, ou qui aspire de tout son être au banquet nuptial avec Dieu, et qui, dans la privation, va sentir justement cette absence de ce qui le fait vivre. Le jeûne, c'est aussi une expérience qui va nous construire. Alors à ce niveau-là, lorsque l'on mène une expérience, on doit faire attention à respecter un certain protocole, à se mettre dans des conditions spéciales pour mener à bien cette expérience. Une expérience, ce n'est pas justement un acte ordinaire, un acte habituel. On est, je vais dire, un peu dans le domaine de l'inconnu. Et elle demande toute notre attention et toute notre vigilance pour y détecter justement les résultats et pour apprendre quelque chose de cette expérience. Alors habituellement, l'expérience se fait dans un laboratoire, un lieu un peu spécial, donc qui sort de l'ordinaire. Lorsque le Christ a jeûné, lui, c'est au désert, dans un lieu aride, hors influence du monde tumultueux qu'il est allé faire cette expérience. Alors pour notre jeûne, on peut dire qu'il en sera de même. Il ne peut se concevoir que si on essaye de privilégier un lieu écarté des distractions. Cela ne doit pas être spécialement un lieu physique extérieur, mais ça peut être un lieu plus intérieur, plus spirituel, pour nous préparer justement à la rencontre avec Dieu. Et ce lieu, bien souvent, c'est notre cœur, notre intériorité. Alors vous allez me dire, mais ça risque d'être vraiment impossible de jeûner pour ceux qui travaillent à l'extérieur et qui sont tous les jours en contact avec les tentations potentielles du monde. Et c'est là justement que la prière présentée par le Christ comme le deuxième pilier du carême, et que cette prière prend tout son sens. Parce que où qu'on soit, nous pouvons prier même quelques instants et retourner vers notre intériorité. Un rappel parfois périodique tout au long de la journée peut nous recentrer sur notre intériorité aussi. La prière est là justement comme un renfort, comme un rempart pour pouvoir accomplir l'effort nécessaire pour jeûner. et pour pouvoir tenir ce jeûne. Mais le jeûne est lui aussi, comme je vous ai dit, nécessaire pour libérer du temps, pour libérer notre esprit de la servitude du corps et de notre âme, de notre intellect, et nous donner ainsi la possibilité de rencontrer Dieu. Évagre le Pontique, qui était un moine du IVe siècle et qui vivait dans le désert d'Égypte, écrivait d'ailleurs « La prière est une conversation de l'intelligence avec Dieu ». Il y a une synergie, comme je vous disais, entre le jeûne et la prière. Le jeûne pour mieux ressentir la faim de Dieu et la prière pour entrer en relation avec lui et pour supporter la faim. Le jeûne n'est pas un but en soi, comme le fait de manger d'ailleurs n'est pas une fin en soi non plus. Nous pouvons pratiquer le jeûne, je vous ai dit, pour toutes sortes de bonnes raisons qui ne relèvent pas du domaine spirituel. Et il faut faire attention parce que le jeûne peut même devenir une occasion de nous éloigner de Dieu. Si nous entrons dans la comparaison, dans le jugement, si ce jeûne sert à essayer de nous faire remarquer, si ça devient un outil pour accomplir une performance, pour renforcer notre orgueil, pour satisfaire notre moi, alors soyez sûr qu'il ne va pas remplir son objectif qui est de vous rapprocher de Dieu. Le but et la motivation du jeûne doivent être spirituels avant tout. Notre jeûne doit être un acte devant Dieu et non devant les hommes. Celui qui jeûne se place devant Dieu uniquement. Et ce n'est pas pour faire plaisir à monsieur le curé, et ni non plus un moyen de se faire bien voir de Dieu. Le jeûne, justement, ne doit pas être accompli comme une obligation, ou comme une forme de, je vais dire entre guillemets, de punition nécessaire pour effacer nos transgressions. Ce n'est pas non plus une souffrance acceptée volontairement comme réparation de nos manques vis-à-vis de Dieu. Le Christ, il a souffert sur la croix pour nous, une fois pour toutes, et il est ressuscité. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu qui ne dépend pas des mérites que nous pensons gagner en résistant à la faim, en jeûnant. Et ne disons pas, comme dans Isaïe, « Quand nous jeûnons, pourquoi ne vois-tu pas ?» Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Le Christ nous dit, à la place, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour ne pas faire voir aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Le carême et le jeûne, justement, sont aussi une occasion d'inverser notre façon d'être en relation avec Dieu quand nous y sommes. Souvent, nous nous mettons en position de reproche vis-à-vis de Dieu. Et on dit, comme dans le psaume 13, « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Le jeûne, je crois, nous invite à changer notre vision et à dire à la place « Jusqu'à quand t'oublierai-je, Seigneur, sans cesse? Jusqu'à quand cacherai-je ma face de toi? Car Dieu, lui, ne nous oublie jamais. » Le jeûne nous fait entrer ainsi dans une attitude de repentir. Et je le répète, comme je l'ai déjà dit souvent, se repentir ne signifie pas se sentir coupable. La culpabilité, c'est un processus qui nous tire vers le bas et qui nous éloigne de plus en plus de Dieu, en considérant qu'il ne peut rien pour nous. Le repentir est une attitude courageuse, une attitude d'humilité qui nous rapproche de Dieu en reconnaissant notre faiblesse, notre éloignement de lui et en reconnaissant que lui seul peut nous apporter ce qui nous manque. Le jeûne du carême, c'est ainsi une période qui nous rapproche de Dieu. C'est une période d'activité spirituelle intense, une période privilégier d'exprimer l'amour que l'on a pour Dieu et une période qui nous permet de nous unir plus intimement avec lui. Alors on peut dire que c'est vrai, dans les temps d'aujourd'hui, jeûner n'est pas très populaire. Et pourtant, il y a toujours quelque chose qui me frappe. Certains arrivent à faire des jeûnes très poussés, comme je veux dire, comme des athlètes de haut niveau ou des comédiens pour les besoins d'un film. Ils sont prêts à faire des efforts énormes, des sacrifices, à jeûner pour atteindre leur objectif. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous ne pourrions pas, nous aussi, nous donner un objectif spirituel et découvrir que le jeûne est un chemin royal pour aller vers Dieu. Le carême et le jeûne, c'est donc la proposition que nous fait l'Église comme école de transformation et de retournement. C'est la période de l'année liturgique où nous sommes invités de manière un peu plus concrète à modifier plus en profondeur notre façon d'être au monde. C'est un temps béni où nous allons consacrer plus d'espace dans nos journées, plus d'espace à la prière, à la méditation, à des lectures plus spirituelles, lecture de la Bible, peut-être des saintes écritures, des témoignages des saints, à nous décentrer de notre moi et nous tourner plus vers les autres, à prendre des temps de silence, des temps de retraite intérieure ou extérieure, pour goûter à la présence, à semer des espaces dans nos journées par des marches méditatives, à porter un regard d'émerveillement sur ce qui nous entoure, sur la nature qui renaît après un long moment de repos. Et le jardinage en conscience peut être un très bon outil pour accompagner votre jeûne. On peut aussi consacrer plus d'espace à entrer dans la louange, dans la bénédiction. Dans la bénédiction pour tous ces dons que nous avons reçus, comme je vous l'ai dit, sans aucun mérite. À être plus attentif à ce que nous vivons, à ce qui se passe en nous. À entrer dans l'écoute et à sortir du jugement. En somme, le jeûne du carême nous conduit à une purification intérieure de notre âme. Et Claude Tresmontant, qui est un théologien orthodoxe du XXe siècle, écrit « L'ascèse, justement dans la perspective chrétienne, ne se comprend que si l'on garde en vue cette doctrine fondamentale d'une création inachevée, en train de s'effectuer, et qui implique pour l'homme une coopération libre et réfléchie à une création nouvelle. L'homme, pour devenir ce qu'il est invité à devenir, un Dieu capable de prendre part à la vie de Dieu, doit librement renoncer à des vieilles programmations. L'ascèse chrétienne orthodoxe n'a pas pour but de léser, de diminuer l'homme, de le frustrer ni de le mutiler, mais au contraire de l'achever, de l'engendrer, de faire de lui ce qu'il est appelé à devenir, un Dieu. Ainsi, l'ascèse est une condition ontologique de développement et de naissance nouvelle. L'homme moderne qui est justement de plus en plus hors de lui-même, qui est fasciné par les choses de la vie extérieure, soit par l'indifférence, par laxisme ou par peur, vit ainsi éloigné de son être spirituel. Et il est important qu'il saisisse et que nous saisissions des opportunités qui nous permettent de concentrer notre attention sur l'unique nécessaire, sur la vie intérieure, sur la vie contemplative. L'ascèse et le jeûne sont le moyen proposé par l'Église pour prendre justement le chemin de son intériorité. Le jeûne est à la fois une sagesse biologique et spirituelle. Par cette expérience, nous sommes invités à redécouvrir la fonction ontologique de notre corps comme temple de la divine présence, retrouver le respect du corps, de la nourriture, du cosmos, du rythme même de la vie. Alors, comment jeûne-t-on ? Comment jeûne-t-on surtout à notre époque actuelle ? Et comme vous l'avez compris, le jeûne consiste à s'abstenir de certaines nourritures. Il n'y a pas qu'une seule façon de jeûner. Il y a des recommandations, mais il n'y a aucune obligation. Chacun doit trouver dans sa vie, finalement, les nourritures qui le détournent le plus de Dieu, qui le mettent le plus hors de lui-même, qui le maintiennent dans l'extériorité. Chacun doit trouver quel voyage il va entreprendre pour mettre fin à sa vie d'errance coupée de Dieu et entrer ainsi dans la résurrection, la vie en Christ. Alors si Jeannet nous aide à retrouver la liberté, il est justement important, avant de commencer son jeûne, d'identifier les chaînes qui nous emprisonnent. Alors je vous propose peut-être au cours des moments de silence de cette journée, ces moments où vous êtes, où nous sommes un peu, je vais dire, retirés du monde, je vous invite à faire un examen de conscience, dirions-nous, à vous poser les questions suivantes. Quelles sont les dépendances, finalement, qui me tiennent prisonnier? À quoi est-ce que je suis le plus attaché? Qu'est-ce que, si je ne l'ai pas, je vais le considérer comme un manque, je vais sentir que ça me manque? Qu'est-ce qui me semble très difficile ou insupportable de ne pas avoir? Où est-ce que je trouve mon plaisir habituellement? Et la question, est-ce que tout ça, ça me rapproche ou ça me tient éloigné de Dieu? Car l'homme est un être aussi de jouissance, il peut avoir du plaisir, mais est-ce que c'est pour lui-même ou justement pour se rapprocher de Dieu? Posons-nous la question aussi, est-ce que je vais adapter le carême à ma vie ou est-ce que je vais adapter ma vie au carême? C'est une bonne question pour voir quelle place nous donnons au Christ dans notre vie. Et en faisant, je crois, cet examen avec le plus d'honnêteté possible, sans jugement, sans concession, nous allons découvrir qu'il n'y a pas que la nourriture à laquelle nous sommes enchaînés. Alors, c'est vrai que la nourriture du corps était une évidence, et elle l'a été pendant de nombreuses années, parce qu'il n'y avait pas, justement, d'Internet, il n'y avait pas de livres qui étaient disponibles, il n'y avait pas de films que l'on pouvait voir à la télévision, d'émissions, tout ce qu'on veut. Mais si donc la nourriture du corps est une évidence, et nous avons l'impression justement qu'elle est un besoin essentiel et vital, il y a aussi d'autres choses que nous pouvons regarder. Avant de vous dire quoi, je vous demande aussi pour les nourritures de ne pas confondre ce qu'on appelle souvent le jeûne et l'abstinence. Le jeûne, ça va consister, en ce qui concerne la nourriture, à n'avoir qu'un seul repas important dans la journée, que bien souvent on choisit comme étant le repas du soir, mais bon, il n'y a pas d'obligation. Mais si c'est un repas important, il faut quand même réfréner ce repas. N'en faites pas un repas de 6 plats avec plein de bonnes choses dedans. Encore. Et l'abstinence, enfin vous pouvez mettre des bonnes choses, mais pas en quantité pour vous remplir. Et l'abstinence, ça consiste à s'abstenir de consommer certaines catégories d'aliments, et en particulier tous les produits d'origine animale, le vin et l'alcool. Et la proposition justement de notre Église, c'est de pratiquer, d'observer le jeûne et l'abstinence pendant les 40 jours de carême et la semaine sainte, c'est-à-dire donc du mercredi des cendres jusqu'au samedi saint inclus. Une chose quand même, c'est qu'on pourra relâcher le jeûne de nourriture un peu le dimanche. Pourquoi? Parce que justement le dimanche est le jour du Seigneur, celui où normalement on est plus proche de lui. Alors je vous disais que pour certains, aussi se priver de nourriture animale, ce n'est pas une difficulté, et ils peuvent aisément s'en passer. Et c'est pour cela, je crois qu'il faut voir justement plus large, de voir, mais qu'est-ce qu'il y a justement dans notre monde moderne qui nous tient aussi emprisonnés? Donc ce n'est pas, comme disait le patriarche Chénouda, le jeûne n'est pas une simple abstinence de nourriture, mais plutôt une véritable attirance de notre cœur vers Dieu. Et donc, quelles sont les attirances qui, au lieu d'aller vers Dieu, nous tirent hors de lui? Et par là, on pourra voir que le jeûne peut prendre d'autres formes. Et ça peut être une recherche de silence. C'est vrai que le silence pour l'homme moderne est souvent vu comme une chose négative, comme une pure absence, alors que précisément c'est la condition de toute vraie présence. Le silence peut venir, pour parler toujours en termes d'abstinence ou de jeûne, d'une abstinence de parole. Des paroles souvent inutiles que nous disons par peur de nous retrouver face à nous-mêmes. Ça peut être aussi une abstinence de discussion, des discussions sur tout et sur rien, des discussions, comme on dit, du café, du commerce, où nous nous répandons en critique, en médisance ou en jugement les uns sur l'un ou sur l'autre, où nous y allons de notre solution à tous les problèmes du monde. Ça peut être aussi une abstinence de bruit de fond. La radio, la musique que l'on met tout le temps, par peur du silence, pour nous rassurer. Ça peut être aussi une ascèse, une abstinence de télévision que l'on regarde souvent par habitude pour occuper le temps. Et on redécouvrira peut-être comme ça que se passer finalement d'une série de TV, des nouvelles, des émissions satiriques, des jeux, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Le jeûne peut aussi porter sur une retenue. Une retenue, je veux dire, dans notre habitude d'aller, je veux dire, faire les boutiques. Et les boutiques, ce n'est pas uniquement les boutiques physiques que l'on rencontre, mais c'est les boutiques sur Internet que l'on peut aller voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet? Chacun, finalement, verra ce à quoi il est le plus accro. Soyons aussi sélectifs peut-être dans nos lectures. Choisissons des lectures plus spirituelles qui vont nourrir notre part divine. Et je vous dis, délaissons peut-être un peu Internet, Google, Facebook, Twitter et tous ces nouveaux médias que l'on nous présente et dont on nous abreuve notre vie de tous les jours, dont on abreuve notre vie de tous les jours. Alors je vous avertis quand même que dans ce contexte, l'âme et le moi ne va pas se laisser faire. Il va se rebeller. Tout ce qu'il contrarie d'ailleurs, tout ce qu'il irrite, tout ce qui le révolte va le mettre en colère et il va se faire entendre. Et c'est vrai que vous allez peut-être sentir à certains moments des colères monter en vous. Le tentateur, il sera là. Vous n'en faites pas. Il sera là pour vous faire craquer et pour revenir à de bonnes vieilles habitudes. Et c'est dans ce combat que nous allons être amenés à entreprendre que la prière va trouver sa vraie place, comme je vous ai dit. Si vous n'accompagnez pas le jeûne de la prière, comme je vous répète, l'expérience du jeûne risque d'être désastreuse. Sachez aussi que votre volonté propre est insuffisante pour résister justement à la déferlante de tentation qui va nous assaillir. Luc nous dit d'ailleurs, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Sans l'aide de l'Esprit-Saint, notre carême sera un fiasco. Rappelez-vous que lorsque le Christ a jeûné au désert, ce n'est pas une seule tentation auquel il a été confronté, auquel il a dû faire face, mais que par trois fois, le diable est venu pour le tenter, afin de le faire tomber. Croyons bien que pour nous, les tentations vont aussi être nombreuses. Sans l'aide de la prière et de l'Esprit Saint, nous échouerons. Mais si nous persévérons, nous allons voir que ce carême est un temps propice, aussi un temps propice pour mesurer justement le caractère superficiel, bien souvent, de nos relations. Relations aux choses matérielles, relations dans notre travail, relations avec les hommes et relations avec Dieu. Plus nous allons découvrir par le jeûne les masques, les artifices, les ruses de l'ego et du Satan, plus nous allons faire la place dans notre cœur pour celui qui est la résurrection et la vie. Enfin, dernière chose, s'il nous arrive de trébucher, de craquer, je veux dire de nous précipiter sur un steak, de retomber dans nos vieilles habitudes. Gardons toujours à l'esprit que notre jeûne est un acte d'amour vis-à-vis de Dieu. C'est une offrande, un acte de louange à Dieu. Et nous nous présentons devant lui tels que nous sommes, faibles et vulnérables. Et lui, il nous ouvre les bras, malgré nos dispersions, malgré nos hésitations, malgré nos reniements. Il ne servira à rien de nous lamenter parce que nous avons été incapables de résister. Il ne servira à rien de dire à quoi bon maintenant que j'ai chuté, je suis un misérable, je suis un incapable, et alors d'abandonner. Mais au contraire, relevons-nous et repartons. Implorons le pardon de Dieu, l'aide de l'Esprit, et on continue sur le chemin. Une des choses que je vous invite peut-être, c'est à avoir comme mantra durant le carême, « Ô Dieu, viens à mon aide, Seigneur, hâte-toi de me secourir. » Je crois qu'on le sait toujours, mais ça vaut peut-être la peine de se le répéter un peu plus. Alors je vous disais que le jeûne est un acte d'amour devant Dieu, mais c'est aussi un acte où l'on peut montrer notre amour des autres. Est-ce que nous allons économiser en nous privant volontairement, je veux dire, de manger et de boire, ou de consommation de tout ce que le monde nous présente? C'est que nous sommes invités à l'offrir à d'autres qui en ont besoin. Et cette année, je vous propose peut-être deux projets, à moins qu'il y en ait d'autres aussi qui veulent se proposer. C'est un projet en Inde qui est proposé par Françoise Michel. Parce que elle était, vous savez qu'elle est en Inde et qu'elle va revenir ici le 8 mars. Elle a assisté au forage d'un puits qui était destiné à fournir de l'eau à une famille indienne très pauvre. Mais le puits, hélas, le forage a dû être arrêté avant d'atteindre l'eau, faute d'argent. Et donc, voilà, elle propose de pouvoir peut-être consacrer l'argent, une partie de l'argent de ce carême, peut-être, à continuer à financer, enfin à financer pour pouvoir continuer ce forage du puits là-bas. Et l'autre, c'est Anne Couillard qui propose aussi, elle, c'est au Burkina Faso, c'est pour les enfants handicapés de naissance, et aider les familles à les accepter, à les aimer, à les masser, les rééduquer, et leur faire fabriquer le matériel dont ces enfants handicapés ont besoin pour se socialiser et se scolariser. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous envoyer un peu la descriptif du projet d'Anne. Donc je vous enverrai ça par Internet, donc ne vous coupez quand même pas à tout jamais d'Internet. Internet n'est pas une mauvaise chose, c'est toujours le regard que l'on porte dessus, comme pour la nourriture. Qu'est-ce qu'on porte comme regard sur tous ces nouveaux médias que l'on a? C'est ça qui importe. Voilà, c'est ce que je tenais peut-être à vous dire un peu pour entrer dans cette journée. Donc, je propose qu'on médite. Il va être 10 heures, c'est très bien. Voilà.